Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'actualité repart, comme on dit dans le métier. Pour les journalistes, c'est une aubaine plus lassée qu'on ne le croit de parler en boucle du Covid-19. Une aubaine qui laisse cependant un peu inquiet, car en même temps que la vie sociale, c'est aussi le cheval au galop que l'on sent repartir. Quoi qu'il en soit, pour votre émission d'actualité du mois, trois sujets: les émeutes raciales aux États-Unis et dans le monde, après la mort de George Floyd, la loi Avia pour lutter contre la haine sur les réseaux sociaux, et un sujet libre à propos du monde d'après auquel tous nous aspirons. Ce matin, revue de presse donc, et prospective. Le grand débat, c'est donc le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, votre actualité du mois, en tout cas émission d'actualité de Vivante Église. Aujourd'hui, pour nous en parler, pour cette dernière émission de la saison, pour parler de ces sujets, Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain, professeur de théologie au Studium des Dominicains à Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Ribal, président des Semaines Sociales de Toulouse et entre autres aussi vice-président de l'Institut de Recherche Économique et Sociale IRES. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être fidèle au rendez-vous. Alors, comme promis, on va commencer donc par les États-Unis. Donc, le 22 mai, pour ceux qui, par hasard, n'auraient pas suivi, c'était difficile. Mais comme c'est un peu le principe de cette émission, on repose les éléments d'actualité, parce qu'il y a des gens qui suivent de moins en moins, voire pas du tout l'actualité, ça existe. Le 25 mai dernier, George Floyd, cet Américain, donc cet Afro-Américain, comme on dit, était arrêté lors d'une interpellation policière à Minneapolis, plaqué au sol par une technique, donc technique de... d'étranglement serait mort de cela. S'en est suivi donc des émeutes un peu partout aux États-Unis, en tout cas dans les 50 États des États-Unis, 2000 villes et villages, ai-je lu, avec des images très frappantes où on voyait des émeutes près de la Maison Blanche, et il y a eu des suites en France. Alors le mot d'ordre, c'était « I can't breath », puisqu'il serait mort d'étouffement. Beaucoup de choses à voir. Emmanuel Perrier, quel est votre premier sentiment au regard de ces émeutes, américaines et mondiales?
Mon premier sentiment, c'est la distinction entre un fait si il est avéré, comme il le semble fort, qu'il ait été un crime, mais sans intention de donner la mort, mais un crime quand même pour cause de fait de brutalité, eh bien, comme tout crime pour fait de brutalité, on passe devant les juges, on condamne ceux qui ont commis le mal, et la société se trouve renforcée lorsque la justice est rendue. Et à la place de cela, a été monté une espèce de gigantesque mouvement dans lequel non seulement la justice ne joue plus son rôle, mais de surcroît, la police elle-même est mise à la question. On commence à se demander, faut-il la conserver, notamment le maire de Minneapolis
a dissous la police,
ce qui veut dire
pour reverser aux œuvres.
Ce qui veut dire que la dissolution de la police, faut bien voir ce que ça veut dire. Ça veut dire que désormais la rue est au plus fort, à celui qui a l'arme la plus forte, puisque la police, le principe de la police, c'est que elle nous protège, nous qui ne sommes pas armés, nous qui ne sommes pas violents, elle nous protège de ceux qui, au contraire, sont des violents et colonisent la rue. Ou commettent des méfaits. Donc, et là-dessus, s'est greffé tout un maelstrom médiatique, mais alimenté par toute une mouvance de groupuscules américains, qui sont des groupuscules qu'on pourrait dire héritiers du marxisme des années 50-60, qui s'est reconfiguré depuis le communisme vers la dissolution des sociétés occidentales. Et ces mouvements-là essayent, en fait, de renverser l'ordre social pour, soi-disant, établir un ordre plus juste, dans lequel, on va joindre toutes les requêtes de justice du passé, tous les crimes commis du passé, on va les prendre en compte, etc., et qui aboutit en réalité à ce que, une fois de plus, ce soit les plus faibles qui soient les victimes.
Alors, vous connaissez mon rôle, hein. Me permets d'apporter quelques précisions pour vous relancer l'un ou l'autre. En l'occurrence, donc, le policier dont je préfère donc, taire le nom, qui serait à l'origine de cet homicide donc, dit involontaire, aurait été impliqué dans 3 autres interpellations mortelles. Il y aurait eu 18 plaintes contre lui, 2 seulement auraient donné lieu à des réprimandes. On peut lire aussi les évêques américains, dont le président de la conférence épiscopale des États-Unis, Monseigneur José Gomez, qui disait que les émeutes sont le langage des sans-voix et qu'il fallait déraciner l'injustice sociale qui contamine trop de lieux de la société américaine. Alors Bernard Ribal, est-ce que on entend en tout cas de la part des évêques américains non pas la, on va dire, l'acceptation du chaos, mais la légitime colère d'une partie de la population américaine?
Oui, je crois qu'effectivement, vous avez raison de parler des États-Unis, et vous aussi, mon père, vous avez raison de parler des États-Unis, parce que la conjoncture internationale est différente, et en particulier la française est différente. L'affaire Adama Traoré, elle date quand même de 2016, quand même, hein, elle a été plusieurs fois jugée. Bon, moi je veux bien qu'elle soit rejugée, je ne suis pas juriste, il faut peut-être qu'elle soit rejugée, mais en fait c'est quand même du réchauffé, et c'est pas la même conjoncture. Mais ce que je voudrais dire qui m'a frappé, moi, c'est que d'abord, il est étonnant qu'à la sortie du Covid, à la sortie du confinement, quoi, on aurait pu s'attendre, je ne sais pas moi, à ce qu'on parle de qu'est-ce qu'on allait faire en écologie, qu'est-ce qu'on allait faire en économie, quel système de société on voulait. On pouvait même s'attendre à des manifestations, pourquoi pas. Hein, mais alors, moi je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit des manifestations portant sur le racisme, sur les violences policières. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Pas plus aux États-Unis qu'en France d'ailleurs. On voit pas ce que ça vient faire, si ce n'est peut-être chercher des boucs émissaires, ça c'est fréquent dans l'histoire, ou bien même, et c'est encore pire, le nihilisme, quoi.
Alors expliquez davantage, parce que là on peut se dire de prime abord qu'il y a un fait, et il y a derrière une révolte sociale. C'est...
Oui, mais la mode est à la radicalisation de tout. Dès qu'il y a une revendication, elle se radicalise. Dès qu'il y a une idée, elle se radicalise. Mais même peut-être du côté catholique. Hein. Alors là, j'y suis du côté catholique, donc je peux approuver. Mais c'est vrai que la tendance, Laudato aussi, s'est radicalisée. Quoi. Alors, dans la non-violence, hein, on est bien d'accord. Mais tout se radicalise. Et qu'est-ce que ça veut dire, cette radicalité? Ça ne veut pas dire qu'il y a une confiance dans une idéologie. Il n'y a aucune confiance de personne dans aucune idéologie. Il peut y avoir des idées par-ci par-là, mais il n'y a pas d'idéologie construite, comme ce fut le cas dans le passé. Non, c'est une sorte de nihilisme. C'est-à-dire que...
Vous parlez de la jeunesse qui a défilé, y compris aux États-Unis. Vous laissez entendre qu'il y a une grande tentation nihiliste, en fait, dans cette jeunesse.
Oui, il s'agit de détruire, on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais il s'agit d'être contre, quoi. Il s'agit d'être contre et radicalement contre, sans trop vouloir définir une perspective précise. Je termine en disant que la police, dans un état de droit, vous en avez parlé, hein, a le monopole de la violence. Et en France, ce monopole est guère contesté. Oui, ça fait jamais 100%. Hein.
Sauf à Dijon, quand même. Hein.
Oui. Bah oui, là, c'est il y a un cluster de violence. Normalement, donc, là, dans un état de droit, la police et l'armée ont le monopole de la violence. Et je crois que aux États-Unis, c'est pas vrai. Hein. Les gens sont armés. En Europe, c'est davantage vrai. Et la violence, il faudrait la définir, qu'elle soit policière ou pas d'ailleurs. Hein. C'est pour moi, et je suis pas original, hein, l'emploi disproportionné de la force. Et il se peut qu'il y ait parfois dans la police, mais aussi parmi des manifestants, un emploi disproportionné de la force.
Alors, comment vous entendez quand même donc, la réaction des évêques américains comment est-il possible que la vie d'un homme noir puisse lui être prise alors que ses appels à l'aide sont ignorés et que tout a été filmé? Et puis surtout, le racisme a été toléré depuis trop longtemps dans notre mode de vie. C'est un péché qui monte vers le ciel, disent les évêques américains. C'est quoi? C'est des déclarations du coup d'accompagnement, de circonstances de...
Non, je pense qu'il faut bien distinguer les choses. Encore une fois, il y a le fait, l'homicide involontaire. Si, comme vous le rappeliez, c'était un officier qui avait commis de nombreuses fautes et qu'on n'avait jamais sanctionné, à ce moment-là, on fait une action aussi contre les responsables. Ceux qui n'ont pas pris leur responsabilité en laissant quelqu'un de dangereux exercer une activité de police. On ne confie des armes, on ne confie une activité de police qu'à quelqu'un dont on sait qu'il ne va pas lui-même, comme le rappelait à l'instant le professeur Ibal, être celui qui est la cause de la violence. Bien, il y a ça. Deuxième aspect, l'aspect du nihilisme que le professeur Ibal vient de souligner, avec toute grande raison, mais il faut bien être conscient qu'aujourd'hui ce nihilisme, il est devenu une idéologie qui a conquis les campus américains depuis 20 ans ou 30 ans, qui était déjà très présent à partir des années 50-60, mais qui aujourd'hui est dominant et impose sa loi dans les campus américains, et que cette idéologie a généré un antagonisme, une radicalisation, et que cette radicalisation, ici, en l'occurrence, on la voit se concrétiser parce que toutes ces associations, tous ces groupuscules se sont dit « c'est le moment, allons-y ». Troisième aspect, l'aspect dont traitent les évêques américains, qui est l'aspect plus profond d'une culture américaine qui n'a jamais fait le bilan de ces violences acceptées ou tolérées ou même institutionnelles. Et je pense que les évêques américains sont dans leur rôle ici en disant attention, une société, il ne suffit pas simplement d'avoir une police pour l'unifier, mais il faut aussi des conditions de justice entre les citoyens. Ça, aux États-Unis, c'est quelque chose de difficile, parce qu'en réalité, le modèle américain, c'est un modèle de vie, de communautés qui vivent les unes à côté des autres, où chacun vit séparément, hein, et chacun a son propre développement. Mais donc ça, c'est une question de fond pour la politique américaine. Donc je pense qu'ils ont tout à fait raison de souligner cet aspect-là, mais il faut bien faire attention à distinguer les domaines.
En tout cas, on en reparlera en France, puisque c'était cette semaine, sauf erreur de ma part, a été taguée donc, la statue de Colbert proche de l'Assemblée nationale, avec du sang, laissant entendre que Colbert, qui est donc l'initiateur du Code noir, serait un criminel. Or, quand on sait, pour le peu que j'en connais et que j'ai regardé, ce Code noir était au contraire une manière de préciser, de donner un statut civil et pénal à des personnes qui étaient jusque-là des esclaves. Vous vouliez, et il nous reste un petit peu de temps, Emmanuel Perrier, parler de la Libye. Alors, allez-y.
Oh, juste un petit mot, parce que ces derniers jours, donc il y a eu une grande bataille autour de Tripoli. Le maréchal Haftar, qui jusqu'à il y a encore quelques mois, qui est soutenu officiellement par la France, par la Russie, par l'Égypte, qui avait engagé une campagne de conquête de l'ensemble du pays et qui semblait sur le point de l'emporter. En réalité, depuis 3 mois déjà, il était en phase de recul et il vient de perdre, il y a 15 jours, une grande offensive sur Tripoli, et il l'a perdu notamment parce que la Turquie envoie désormais non seulement d'anciens djihadistes de Syrie qu'elle fait venir en Libye, mais cela, le maréchal Haftar le faisait aussi, mais désormais, elle vient s'installer, et elle a sans aucun mandat, alors même qu'elle est membre de l'OTAN, c'est-à-dire que, alors elle l'a fait avec l'approbation implicite des autres, mais en réalité, ça veut dire qu'elle s'installe en Libye, et elle, en fait, c'est, du point de vue stratégique, c'est très important, parce que elle crée un axe entre la Turquie, Chypre et la Libye, de sorte qu'elle coupe la Méditerranée en deux. Et avec notamment en jeu des très grands champs de gaz maritime. Mais le plus essentiel, c'est qu'en fait, on voit réapparaître une zone d'influence et de contrôle de protectorat de la Turquie qui, du point de vue de l'Europe, est très mauvais. Parce que, comme vous le savez, la Turquie fait actuellement un chantage aux migrants sur son territoire avec les 2 millions de migrants qu'elle a sur son territoire, en menaçant l'Europe de les envoyer. Si elle est en Libye, elle fera le même chantage du point de vue de la Libye avec l'Afrique noire.
Alors vous en tirez aussi une conclusion ?
Et j'en tire. Alors ma conclusion, c'est que tout cela est venu de ce que les pays occidentaux ont décidé de renverser un régime sans mandat de l'ONU.
Dont la France sous Nicolas Sarkozy.
Dont la France, sans mandat. C'est-à-dire hors des cadres juridiques de la justice du droit international, et que le résultat, c'est que ça, quand on commence, sous prétexte qu'on est les plus forts, à agir hors de la justice, eh bien les autres se mettent à vous imiter. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on entre dans des périodes très turbulentes, voire de conflits. Et là, on va se trouver directement contre des pays qui sont membres de l'OTAN. Hein, et avec le risque de conflits armés. Donc c'est pour moi un événement, et d'autant que ça nous ramène à la vieille constitution de l'Empire ottoman contre lequel l'Europe a lutté pendant des siècles. Hein, c'est des siècles qu'il a fallu pour desserrer cette emprise de l'Empire ottoman. Donc d'un point de vue stratégique, ça me paraît extrêmement grave. On verra ce que ça donnera si l'Égypte notamment laisse faire.
Bernard Ebal, est-ce que ça attire un commentaire avant qu'on fasse une...
Oui, j'approuve ce qui vient d'être dit. Mais je veux dire autre chose, c'est que chaque fois qu'on est intervenu, il est vrai contre des dictateurs, hein, que ce soit Kadhafi ou Saddam Hussein, c'était pas des anges. Hein, on avait peut-être toutes les raisons morales d'intervenir. Les Américains, c'était la deuxième guerre du Golfe, les Français, plus particulièrement la Libye. Et chaque fois, on a eu tort. Parce qu'on a eu un système, ou plutôt une absence de système, pire que la dictature de Kadhafi ou de Saddam Hussein. Ça a été Daesh, et là, on en est sorti, on n'en est pas très sûr, mais ça a donné des immigrations, on en parlait à l'instant, la Turquie, qui est un réservoir très dangereux d'émigrés potentiels. En Libye, c'est pas forcément Daesh, encore que ça a failli être Al-Qaïda au Maghreb, mais ça va être la Turquie. En fait, je crois que les Occidentaux ont commencé à comprendre, c'est pour ça que celui de Syrie est encore en place, mais il est difficile à un Occidental comme moi, on a cet esprit-là, d'admettre que ils vont pas bien. Le dictateur de l'Égypte non plus, hein, il va pas bien. Le dictateur de la Syrie, il va pas bien. Et qu'on peut finalement absolument rien faire, parce que ce qui aurait à la place sera encore pire, quoi.
Allez, on va faire une première pause. On va vous retrouver après pour parler de la loi Avia. Thank you.
présence. Vivante Église, Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin, votre émission d'actualité du mois autour du plateau. Pour ceux qui nous rejoindraient, Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain, professeur de théologie au Studium des Dominicains à Toulouse, et Bernard Ribal, président des Semaines Sociales de Toulouse et vice-président de l'Institut de Recherche Économique et Sociale, IRES. On en a parlé la semaine dernière à l'occasion d'une émission, il y a deux semaines, de la loi Avia. Entre-temps, donc, il y a eu du nouveau, puisque la loi a été largement retoquée par le Conseil constitutionnel. Cette loi devait donc entrer en vigueur le 1er juillet. La grande mesure phare, pour rappel aussi, pour ceux qui n'auraient pas suivi, c'était donc l'impératif fait aux grands opérateurs du numérique et on va dire mettre des réseaux sociaux sous 24 heures de retirer des propos dits haineux. Ce retoquage, je ne sais pas si on dit retoquage du Conseil constitutionnel, on a réjoui beaucoup, entre autres donc Bruno Retailleau.
Censure,
vous allez nous dire, un véritable camouflet, un texte aussi liberticide que mal ficelé qui donnait aux GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, pour rappel, un véritable pouvoir de censure. Alors c'est censure contre censure, Bernard Ribal ?
Oui, moi, il y a plusieurs points de vue et j'arrive pas à avoir une idée très précise. D'un point de vue philosophique et moral, enfin, sans employer de grands mots, hein, l'intention de la loi est tout à fait louable, quoi. Hein. Mais juridiquement, alors là, ça pose de graves problèmes de.
Alors rappelez pourquoi, même si on en avait parlé.
D'abord,
c'est qu'il y avait un transfert.
C'est que les opérateurs prennent la place des juges, quoi. Et ça, c'est quand même très grave. C'est quand même bien de l'ordre du juge de savoir si il y a qu'on a bafoué la loi, on a incité à la haine, quoique l'incitation à la haine, elle existe depuis 1972, hein, mais disons qu'on a eu un propos haineux, etc.
Puisque donc, pour redire les choses, excusez-moi, hein, je pense toujours à ceux qui ne suivent pas. Et de manière simple, c'est que là, il n'y avait pas de recours juridique, puisqu'évidemment, les délais étant tellement courts...
24 heures.
Voilà, c'est que les réseaux sociaux devaient évidemment agir...
C'était un mécanisme extrêmement pervers, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un mécanisme dans lequel ce sont les entreprises, les réseaux sociaux qui deviennent responsables de ce qui est mis. Et donc, en fait, en faisant pression sur eux et en leur donnant la possibilité de supprimer des textes...
Sous peine d'amende,
en fait, on les poussait à maximiser le contrôle. C'est-à-dire que plus ils contrôlaient, plus ils limitaient la liberté d'opinion et plus ils étaient exempts de tout reproche.
Hein. Avec toutes les différences de culture aussi qu'on peut imaginer à travers le monde.
On inverse complètement ce qui est normalement le régime, qui est la liberté d'expression et d'opinion, toute opinion exprimée peut immédiatement être supprimée si...
Elle est suspecte de...
Celui qui... et quelque part, dans un laboratoire aux États-Unis, décide qu'elle va contre les intérêts des entreprises.
Bernard Ribal, finissez votre propos.
En plus, la justice implique qu'on puisse se défendre, qu'il y ait un débat contradictoire. Or là, il n'y a pas de débat contradictoire, il y a une instance privée qui décide une censure. Il n'y a même pas la possibilité des droits de la défense, il n'y en a pas.
Il y avait aussi la difficulté, on en avait parlé justement il y a deux semaines, mais tout le monde ne suit pas toutes les émissions, de qualifier aussi le propos haineux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une interprétation...
Oui.
Ça n'est pas comment dire, défini en droit, si j'ai bien compris.
Non, il n'y a pas de définition juridique. Et puis alors, si on se mettait à la vouloir, cette définition juridique, on en aurait pour un moment quand même. Hein. Il n'y a pas de définition juridique de la haine. Et la Commission nationale consultative des droits de l'homme a dit qu'il n'y avait pas besoin de légiférer. L'arsenal législatif suffit. Il n'y a pas besoin de définir la haine, il faudrait au moins appliquer les lois telles qu'elles existent, en particulier celles interdisant l'incitation à la haine. Ce qu'il y a aussi, c'est que on avait parlé il y a quelques mois, je ne sais pas si vous en souvenez, du blasphème. Est-ce que le blasphème devait être interdit par la loi ? On est un peu dans le même genre. Le blasphème n'est pas définissable. Et définissable pour un catholique en ce qui concerne le catholicisme, définissable pour un musulman en ce qui concerne la religion islamique, mais elle n'est pas définissable d'un point de vue républicain, c'est assez difficile de définir. La haine est indéfinissable. Aussi, il semblerait Donc on est un peu dans le même débat, et on est dans une ambiguïté énorme, avec pourtant un arsenal législatif très très fort, comme si les choses étaient claires. Il y a une disproportion, c'est ce qu'a dit d'ailleurs le Conseil constitutionnel, il y a une disproportion des mesures prises par cette loi, cette proposition de loi. Bien.
Alors il faut expliquer, enfin il faut redire aussi donc il y a une loi proche, en tout cas dans l'esprit, qui existe en Allemagne, mais qui je crois est appliquée de manière très très difficile, et qui a donc certains aspects quand même du projet de loi qui ont été maintenus. La proposition de loi, la création d'un parquet spécialisé dans les messages de haine en ligne, la simplification du signalement d'un contenu et la création d'un observatoire de la haine en ligne. Comme le disait Bernard Ribal, l'intention est quand même louable. Est-ce à dire en fait qu'on y a tout le dispositif législatif est suffisant, mais qu'on manque de moyens, ou que les délais ne sont pas les mêmes en fait entre les réseaux sociaux et la marge de la justice, Emmanuel Perrier?
Ah non, moi je pense pas. Je pense que tous ces mécanismes sont profondément illégitimes. Parce que...
On ne peut pas réguler il faut...
Si vous voulez, je vais mettre un peu les pieds dans le plat. De deux choses l'une. Soit vous avez une vérité, c'est-à-dire que vous avez un monde dans lequel un verre que je lâche tombe, et ça c'est vrai, dans lequel 2 et 2 font 4, en système arithmétique normal, et ça c'est vrai, dans lequel il y a des choses vraies et des choses fausses. Et ça c'est un monde dans lequel, c'est un monde qui suppose qu'il a été constitué d'une manière ordonnée et juste. Et cette manière ordonnée et juste, elle n'existe que parce que il y a un auteur de ce monde qui lui aussi est juste. Le jour où des sociétés disent désormais nous ne voulons plus du tout avoir aucune référence à Dieu, à ce moment-là vous perdez la référence à celui dont vous affirmiez qu'il étant juste, il avait créé un monde juste. Et que donc si ce monde était juste, il y avait une vérité, une fausseté de manière objective. Après, on peut rentrer dans des débats, etc. Mais il n'empêche qu'il y a quand même globalement des choses qui sont vraies, des choses qui sont fausses. Choses qui sont attentatoires à l'honneur, par exemple, ou des insultes. Les insultes n'ont pas leur place dans la vie sociale. On peut les avoir de temps en temps, ça peut nous échapper, mais ça ne doit pas être la norme d'une vie sociale. Donc ce sont des choses, si vous voulez, qui supposent une vision du monde dans laquelle le monde est juste et dans laquelle il a pour auteur un Dieu juste. D'accord. Le jour où il n'y a plus ça...
Le lien avec la liberté d'expression, parce qu'on peut rêver que tout le monde sache se maîtriser et, on va dire, ait une juste idée de...
Eh bien, le lien avec la liberté d'expression, c'est le suivant. C'est que jusqu'à présent, nos sociétés modernes ont décidé de récuser de mettre Dieu en dehors de leur vision, de leur regard, et de considérer que la seule chose essentielle, c'était la liberté, les libertés publiques. Bien. Et ceci, ça a marché. Ça a marché pourquoi ? Parce qu'en réalité, l'essentiel de la population continuait de croire en Dieu, continuait de croire que le monde a une certaine justice, que le monde est fait dans lequel je dois me comporter de manière juste et dans laquelle il y a une vérité et une fausseté. Mais cette liberté d'expression, en fait, le jour où elle commence où les personnes elles-mêmes ne se réfèrent plus à Dieu, n'ont plus de raison, de règles pour leur agir, eh bien, à ce moment-là, on commence à voir fleurir des opinions, des idées, etc., dans lesquelles tout est remis en cause, la vérité est remise en cause. Et le résultat, c'est que cette liberté d'expression, ces libertés publiques qui étaient accordées aux citoyens, elles sont en train de générer des troubles à l'intérieur des sociétés, parce qu'on voit effectivement des personnes qui se mettent à répandre des discours haineux dans lesquels on a des mouvements.
Si je peux me permettre, me revient en tête quelques articles de presse que j'avais lus de la presse française à la fin du 19e siècle. La société était davantage chrétienne qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'était déjà au vitriol, la liberté d'expression dans la presse française.
Oui. Mais bien sûr, mais c'était justement, il y avait un principe de liberté d'expression. Alors, ce qui, si vous voulez, la condition, ce que je veux dire, c'est que la condition pour qu'il y ait des libertés publiques, c'est qu'il faut qu'il y ait, de quelque manière dans la société, un accord sur le fait qu'il y a une vérité et il y a un bien et il y a un juste, et donc un injuste, un mauvais et un faux. Et le jour où cet accord disparaît, Les libertés deviennent folles. Les libertés deviennent décomposent le voilà. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le dernier quinquennat, le quinquennat actuel, c'est un quinquennat absolument incroyable du point de vue des libertés publiques, une régression sans précédent des libertés publiques, qui n'est pas le fait simplement de ce gouvernement parce qu'il serait mauvais, il voudrait notre malheur, etc., mais simplement du fait qu'on est dans une société qui est devenue très instable et que donc on est en train aujourd'hui de jouer avec la privation de ce qui est des droits fondamentaux de la personne, la liberté de s'exprimer, la liberté d'avoir une opinion. Aujourd'hui, on pénalise même les opinions non exprimées. Hein. Et donc, on a cette opposition entre, d'un côté, on a une restriction terrible des libertés publiques pour des raisons assez justes, mais en même temps, les restrictions qu'on impose, elles, ne font qu'aggraver l'injustice. Parce qu'en réalité, elles ne se réfèrent à aucun principe qui permettrait de dire « Eh bien, voilà ce que nous acceptons comme des points de repère du vrai, du bien, du juste. »
Bernard Ribal, qu'est-ce que ça implique comme réflexion derrière ? On peut de prime abord, pardon, je fais toujours un peu le monsieur basique, hein, mais se dire que... Être contre les propos haineux, racistes et autres sur Internet, c'est avoir une certaine idée, malgré tout, de la morale et un certain sens du bien.
Oui. Mais qui décide que c'est haineux ?
Non, on a compris. Mais c'est,
me permettais juste de oui, dire. Le propos qu'on vient d'entendre, bien sûr qu'on le partage. Mais en même temps, quand je regarde le passé, où l'idée chrétienne, vous l'avez dit, était davantage répandue, même si c'était pas dans la République, c'était dans l'opinion publique. Il n'empêche que on a commis des exactions incroyables, quoi, et en très grande quantité. Hein. Que ça soit la mise en cause de la liberté d'expression ou au contraire l'abus de l'usage de la liberté d'expression. Ce que je crois dans cette affaire, c'est que effectivement, et là je suis d'accord, il y a la solution à ces problèmes. C'est des solutions d'éducation, quoi. C'est des solutions...
C'était d'ailleurs un des volets de la loi Avia, mais qui s'est fait aussi retoquer.
Là, il y a un problème, effectivement, du côté de... Parce qu'on ne contraint pas à la vérité, quoi. Ça ne veut rien dire, contraindre à la vérité. Moi, j'ai toujours été plus ou moins opposé aux lois qui interdisent de critiquer la Shoah. Alors, évidemment, moi, je suis sûr que la Shoah a existé. Je suis sûr que c'est un crime contre l'humanité. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais... S'il faut une loi pour obliger à penser ça, c'est que ça veut dire que les gens comme moi, ils sont pas très convaincants, quoi. Donc on contraint, c'est pas bon de contraindre la vérité. Mais tout ça, c'est des problèmes qui sont extrêmement difficiles. Et même pour la vie pratique immédiate de nos gosses, comment empêcher les enfants de regarder ce qu'ils doivent pas regarder? Alors, ils ont trouvé l'idée de numéro de la carte bancaire des parents. Enfin, n'importe quel gamin...
C'est-à-dire, redites ça.
Eh bien, pour avoir accès au site, par exemple, pornographique, il faudrait faire le numéro de sa carte bancaire. Alors, comme pour avoir une carte bancaire, il faut être adulte, ça serait une preuve, mais une preuve de rien du tout. Le gamin ou la gamine, il va avoir le numéro de la carte bancaire de ses parents quand elle veut. On voit bien que si on passe pas par un mouvement culturel de fond, on n'y arrivera pas par des mesures ponctuelles à ce genre de problème. Et puis cette loi, elle mélange tout quand même.
Alors justement,
c'est le fourre-tout complet.
Donc vous êtes d'accord sur le fait que ce qui manque, c'est pas un problème de liberté contre absence de liberté, c'est une règle, quelque chose qui permette de dire, en laissant un principe de liberté, mais dans lequel on dit, ici, chez nous, on a vu ce que ça donne, par exemple, la Shoah, et donc on ne tient pas à ce que des personnes recommencent ce même genre de discours.
Voilà. Tout à fait, oui.
Et ça, c'est une règle objective de vérité, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur une vérité, sur une expérience, et on dit ça, on sait que c'est mal. Voilà. Ouais. Mais en revanche, le système de la loi Avia dans lequel n'importe qui peut vous dénoncer auprès de votre du réseau social.
Même si c'était la seule limite de la loi, c'est-à-dire qu'on pouvait être condamné pour dénonciation, pour fausse dénonciation.
Oui, enfin, ok.
Ça faisait partie, ça faisait partie.
Oui,
c'était un volet de l'amour, en tout cas.
Ça, d'accord. Enfin, c'est dans les rêves. C'est-à-dire que quand vous en avez des milliers, voire des dizaines de milliers par jour, vous allez faire une action en justice pour chacune.
Dernière chose, on en avait parlé là, donc, il y a deux semaines, mais c'est toujours intéressant d'avoir différents points de vue. Qu'est-ce que vous pensez de la création du conseil de déontologie journalistique, qui n'a pas de valeur, on va dire, qui émet des avis, mais qui ne peut pas aller plus loin, qui a commencé à émettre un certain nombre d'avis. Celui qui a fait le plus parler de lui, c'est donc l'avis invitant Apolline de Malherbe, cette célèbre journaliste, à être moins partisane dans ses propos. Est-ce une bonne solution intermédiaire entre le Conseil de l'Ordre auquel certains aspirent, mais qui pour beaucoup rappelle une mauvaise époque, et rien du tout, Emmanuel Perrier? Qu'est-ce que vous en pensez ?
Moi, je dirais la seule manière pour que ce genre de comité soit crédible, ce serait de faire ce qui avait été au départ le Comité consultatif national d'éthique, c'est-à-dire des sages. On demande à des gens que l'on respecte pour leur intégrité, pour leur sagesse morale et leur droiture. Et à eux, on peut éventuellement demander des avis en leur disant: est-ce que cela vous paraît mal exprimé?
Donc,
une
bonne
teinte,
idée, mais
etc.
Il faut veiller à la composition, c'est ça?
Mais oui, alors que quand vous voyez ce qu'est devenu le Conseil consultatif national d'éthique aujourd'hui, hein, c'est-à-dire un lieu dans lequel il n'y a plus personne de sage et le président lui-même ne croit pas qu'il y a des choses bonnes et des choses mauvaises, bon bah...
Ce qui est sage pour un certain nombre de Français. Que de penser ça, mais...
Oui, bien sûr.
Oui, c'est le relativisme.
Qui... C'est le relativisme. Ouais. C'est-à-dire, c'est... Après, il ne faut pas s'étonner que la société se décompose.
Voilà. Bernard Ribal, est-ce que c'est quand même une bonne nouvelle que ce conseil de déontologie journalistique? On peut se dire aussi que d'émettre des avis, ça montre quand même qu'on est attentif et qu'on essaye de désigner un bien et puis qu'on fait confiance à la profession pour faire le reste.
C'est le genre de question, Emmanuel, que vous pourrez reposer en septembre, en janvier, l'an prochain, à la même époque.
Peut-être qu'il n'existera plus.
Ça fait 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'on en parle. C'est le serpent de Merle. Hein,
et là, il existe. Il a été créé. C'était en décembre dernier. Donc,
Oui. Moi, je ne pense pas qu'on puisse créer... encore un comité de plus qui serait un comité de déontologie. Tous ces comités là, quelle est la légitimité des comités de ce genre là? D'où elle sort cette légitimité? Même le Conseil constitutionnel qui essaye d'être le plus neutre possible, il est quand même nommé par des hommes politiques. Certes, ils ne peuvent pas être renommés, donc il ne peut pas y avoir de chantage à la renomination, mais ça vient quand même d'une majorité. C'est pas possible de faire des choses neutres, ça n'existe pas.
Non, mais on peut quand même faire des choses sages.
Oui.
On peut prendre des décisions sages.
Oui.
Même si elles ne sont jamais parfaites, mais quand même. Sinon, il faut arrêter de demander à des juges de juger. Voyez.
Oui. Mais les juges, ils ont un avantage, c'est qu'ils sont censés juger en fonction d'un texte. Alors, évidemment, si on fait des textes, ça veut dire qu'on fait des lois. Alors, d'accord. Mais si c'est simplement de la déontologie, c'est-à-dire de, écoutez, on va essayer de trouver un consensus vague, ne nous fâchons pas, là on n'aboutira pas à grand-chose.
En tout cas, aujourd'hui, donc, il y a des représentants de la presse française, des journalistes et des citoyens pour cet observatoire donc, qui a été fondé le 2 décembre dernier et qui existe, semble-t-il, dans une majorité des pays européens. Affaire à suivre.
Donc juste quand même, la composition n'est pas la composition de la recherche de gens sages.
Ah, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun journaliste sage.
Non, ce que je veux dire, c'est que le critère de sélection n'est pas celui-là. Le critère de sélection, c'est représentatif. Ben voilà.
C'est vrai.
Ça sera la morale relativiste.
Allez, on fait une deuxième pause et puis on va retrouver pour faire un peu de prospective. Vous allez nous donner, on va dire, des pistes pour le monde d'après, mais avec un peu cette contrainte. Si on devait commencer cet été, par quoi faudrait-il commencer ?
Is now.
Emmanuel Pella.
Le grand débat, c'est pour rappel le thème de l'émission de ce matin, ou plutôt le titre de l'émission, émission d'actualité autour du plateau. Emmanuel Perrier, prêtre religieux dominicain, professeur de théologie au Studium des Dominicains à Toulouse, et Bernard Ribal, entre autres président des Semaines Sociales de Toulouse. Alors, je vous ai demandé donc à la fin de cette émission, on a tous rêvé, on rêve tous du monde d'après. Il y a maintenant le monde d'avant et le monde d'après. Et voilà, on a pu lire beaucoup de choses pendant le temps de confinement sur toutes ces aspirations. Ma question plus précise était s'il fallait s'y mettre dès cet été, quel premier pas ou quelles seraient les urgences? On commence avec vous, Bernard Ribal.
Oui, d'abord, je trouve la question très très pertinente. J'allais me dire c'est classique ça, de commencer par ça, mais je vais m'expliquer quand même. Très pertinente parce que je crois qu'il y a effectivement une hiérarchie des mesures à prendre après le Covid. Il faut prendre des mesures au départ, tout de suite, qui conditionnent les mesures qui vont suivre après, et non pas à l'inverse. Et je m'explique encore par un exemple très précis. Je crois, même si c'est pas politiquement correct, je crois que l'urgence, c'est la relance économique. C'est la reprise économique. Sans reprise économique, parce qu'il faut voir ce qu'on a perdu quand même là, 17% du PIB au deuxième trimestre. Pas 17% quand même sur l'année, hein. 17% sur le trimestre. Et 800 000 chômeurs, hein, qui n'y étaient pas. 800 000 chômeurs en plus. Pour moi, l'urgence, c'est... Alors, c'est pas très à la mode de dire ça, hein, mais c'est la reprise économique, effectivement, d'urgence. Alors, on a le droit quand même de pas être idiot. Par exemple, pour la relance de l'industrie automobile, il est tout à fait sain de dire que ça sera pas les mêmes avantages donnés pour les voitures non polluantes que pour les voitures polluantes. Bon. Mais je crois que il faut avoir ça en tête, et il est pas bon de faire croire à l'opinion publique qu'il y aura un autre monde, un autre système social, si la reprise économique n'a pas lieu. Et même pour l'ensemble de la planète, hein, si l'Europe de l'Ouest et l'Amérique du Nord n'ont pas une reprise économique rapide et forte, c'est l'ensemble de la planète qui va plonger.
Alors, est-ce qu'il y a des mesures que vous appelez de vos voeux qui, pour l'instant, ne font pas partie de...
Non, alors, je suis pas toujours d'accord avec le gouvernement, mais là, je pense que les mesures qu'il a prises, quand même, l'Europe aussi d'ailleurs, hein, c'était inattendu de la part de l'Europe. Ça a été dit souvent par les journalistes. Que ce soit l'Europe ou que ce soit la France, on le voit dans la presse, il y a des dizaines, voire des centaines, c'est plutôt des centaines de milliards qui sont mis, alors,
des milliers,
la plupart.
Des milliers de milliards aussi, c'est.
Oui, parce que il y en a qui ne seront jamais donnés, c'est ceux qui servent de garantie. Hein. Il y en a qui sont prêtés simplement, il faudra les rendre. Et puis il y en a qui sont donnés. Mais dans tous les cas, les sommes sont énormes. Donc il y a une nette priorité à la relance économique. Et on a bien vu que les règles de Maastricht, qui n'étaient pas forcément mauvaises en temps normal, hein, mais les règles de Maastricht terminées, on n'en parle plus pour l'instant, quoi, hein, parce qu'il faut une relance économique. Alors, rapide.
Pour nous, Bernard Ribal, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre de vacances et il faut penser à travailler cet été?
J'aime pas la radicalisation, je l'ai dit tout à l'heure, j'aime pas la radicalisation des propos. On n'est pas obligé de faire tout ça. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller dans le sens de faire plus soi. Pour l'instant, il y a encore de l'hésitation de la part des chefs d'entreprise, par exemple, à embaucher, à avoir tel projet.
Parce que la croyance, c'est que le monde d'après, on pourra moins travailler et en même temps tout révolutionner, c'est ça ?
Oh, je ne crois pas que ce soit. Je crois que c'est le fait qu'on ignore ce que ça va être. Et l'ignorance fait toujours peur, quoi. On ne sait pas trop. Mais le propre du système libéral, qui a des gros défauts, sa qualité, c'est d'encourager le risque. Et là, il faut vraiment que les entreprises n'hésitent pas à prendre des risques, et le gouvernement aussi d'ailleurs.
Donc, j'allais dire travailler plus, pas forcément pour gagner plus, bref, travailler en tout cas et relancer la machine économique. Emmanuel Perrier, quel serait vous votre conseil ? Certes, c'est une question large, mais il faut bien commencer par quelque chose. Donc, par quoi ?
Moi, je dirais qu'il faut commencer par effectivement attendre le monde d'après, mais le vrai monde d'après, c'est-à-dire la vie éternelle avec Dieu. C'est celui-là, le monde d'après, que nous attendons. Le monde d'ici-bas, nous savons que...
Oui, mais là, mon père, là, vous allez gagner à coup sûr partout. Là, vous avez pris le maximum, là.
Mais évidemment, j'ai bien l'intention de prendre le maximum.
Non, mais parce que c'est le moyen terme, disons.
Mais je crois justement...
Je répondais à la question d'Emmanuel sur le très court terme.
Ah non, mais c'est pas du tout une critique, Bernard.
Non, mais je sais.
Pas du tout une critique.
Mais surtout, je suis pour le royaume, je suis pour la vie éternelle. Il n'y a aucun problème là-dessus.
Je n'en doute pas une seconde. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que nous faisons, nous le faisons pourquoi ? Et nous le faisons pour vivre cette vie de manière humaine, la plus belle possible, en mettant de la paix autour de nous, en étant le plus droit possible, en cherchant à pratiquer la charité, à aimer Dieu et le prochain. Et en faisant cela, nous le faisons pour le monde d'après, parce que c'est cela le monde que Dieu aime. Et c'est cela que nous cherchons de quelque manière à vivre déjà ici-bas. Donc mon propos n'est pas du tout propos éthéré.
Vous pourriez dire ça à n'importe quel moment de l'histoire.
Oui, mais je pense que, vous voyez, ce sont ces moments où nous sommes beaucoup plus sensibles à cela. Pourquoi ? Parce que justement, nous voyons la fragilité de notre monde. Nous voyons qu'en réalité, ceux qui sont en train de s'illusionner en se disant « le monde d'après, nous allons résorber des problèmes, les problèmes de l'humanité », non, je pense qu'en réalité, nous allons vers pire. Parce que pour les résorber, il faudrait avoir justement agir selon la charité et selon la justice que Dieu nous demande. En revanche, je sais que le monde d'après sera meilleur. Le monde d'après, de ce monde-là d'après sera meilleur dans la mesure où nous-mêmes nous modifions et nous cherchons la sainteté, nous cherchons à vivre avec Dieu, à aimer Dieu et notre prochain. Ça, je sais que c'est ça ce qui change le monde d'après. En revanche, toutes les autres tentatives n'aboutissent en général qu'à l'aggraver. Voilà. Et donc c'est pour ça que je dis, se placer dans le vrai monde d'après, c'est-à-dire face à Dieu et demander à Dieu son secours dans cette période difficile, parce que je pense à beaucoup de monde pour qui c'est une période qui va devenir très difficile, et que ce soutien du Seigneur est absolument indispensable, et notamment aussi ce soutien à l'égard des proches et de faire autant que possible d'aider à se convertir et à soutenir, à aider notre prochain.
Alors je vais prendre un exemple concret pour peut-être relancer on sait que les jeunes vont être pour un certain nombre, donc en première ligne déjà impactés par le chômage à la faveur de cette crise, et en général les plus jeunes et les moins diplômés s'ils passent du temps cet été donc à prendre soin de leur âme et à se tourner vers Dieu, ça peut avoir une incidence on va dire sociale pour eux, concrète.
Oui, parce qu'ils vont mettre de l'ordre dans leur vie. Ils vont mettre les choses d'aplomb. C'est-à-dire que vous savez que pour diriger sa vie, il ne faut pas nécessairement tout décider. Et en revanche, ce qui est nécessaire, c'est que tout ce que l'on vit, qu'on l'ait décidé ou qu'on nous l'impose, tout ce que l'on vit, on le vit avec cet axe qui nous guide, qui est l'amour de Dieu et du prochain. Et de surcroît, vous dites il faut passer un peu de temps. Oui, je pense que le confinement a été pour certains au moins, l'occasion de s'apercevoir que une promenade avec quelqu'un qui nous est proche, on l'appréciait, parce que justement, quand on était confiné, eh bien, on apprécie d'autant plus d'être un peu, de passer ce temps libre avec quelqu'un. Eh bien, la même chose vaut, il faut se dire, ben, c'est ça ce qu'il faut continuer. Dans l'expérience de l'épidémie-là, ce qui a compté, quelles sont les choses qui se sont révélées essentielles ? La solidarité, solidarité dans les villages, solidarité dans les familles, solidarité entre amis. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui compte. Et donc c'est là où il faut recentrer notre vie et se détourner de cette espèce d'emprise de la surconsommation, d'emprise dans lequel nous sommes progressivement aliénés de nous-mêmes parce que nous vivons avec les pubs, avec la télé, avec Netflix, avec l'Internet, etc. Et le fait de replacer sa vie face à Dieu et à notre prochain, c'est cela qui met de l'ordre dans notre vie et c'est par là que nous arriverons à traverser l'épreuve en ressortant grandi.
Voilà, Dieu et le travail, c'est presque un programme décidément anti-conformiste dont je vous taquine, que vous proposez en tout cas pour commencer. Un grand merci à vous donc d'être venu ce matin. Cette émission a été réalisée par merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry et donc il n'y a pas de rediffusion ce soir puisque chaque 26 juin c'est la journée internationale de soutien aux victimes de la torture. Et à cette antenne, à 21h, il y aura donc une veillée de prière œcuménique, comme il en est proposé un peu partout en France, dans vos départements et dans vos diocèses. Et donc pour vous accompagner, pour tous ceux qui ne peuvent pas se déplacer, et en raison des mesures encore sanitaires et de distanciation sociale, il y aura donc une veillée organisée par l'ACATS. L'ACATS, pour rappel, c'est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Merci beaucoup. Et moi, quant à moi, je vous dis rendez-vous à lundi.